Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. J'avais à cœur de vous entretenir de l'obéissance. Et pour partir vers l'obéissance, il faut d'abord regarder au Fils de Dieu lui-même et parler de son obéissance à lui. Et puis ensuite, on peut venir à notre obéissance à nous. Mais ça sera dans un prochain message, parce que parler de l'obéissance du Fils de Dieu en soi, c'est un programme chargé. En fait, c'est tout l'objet de l'Évangile. Alors, je vais reprendre les principaux passages qui nous instruisent concernant l'obéissance du Fils de Dieu. Et je vais prier encore avant. Seigneur Dieu Père, je te bénis, je te rends grâce de nous soyons réunis en ton nom, au nom de ton Fils bien-aimé qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Alors nous voulons maintenant, Seigneur Père, que tu nous instruises par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, fais pénétrer en nous la vérité, fais pénétrer en nous la vie. Que vienne, Seigneur, cette puissance qui change nos cœurs, cette puissance qui illumine notre esprit et qui nous transforme véritablement, Seigneur. Amen. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, versets 5 à 10, nous pouvons lire: et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et qui a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans ce passage donc, il nous est dit que le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, dans les choses qu'il a souffertes. Et nous voulons nous replacer donc devant cette obéissance du Fils de Dieu qui implique ses souffrances. Dans les jours de sa chair, est-il dit. Alors si il est question des jours de la chair du Fils de Dieu, eh bien, c'est qu'il avait des jours en dehors de la chair. C'est la préexistence du Fils de Dieu, bien sûr, tous ces passages de l'Évangile ou des Épîtres qui nous instruisent concernant le fait que le Fils était auprès du Père avant le commencement. Jésus lui-même, dans sa prière, sa prière sacerdotale, dit au Père: « Rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et dans cette même épître aux Hébreux, eh bien, ça commence au chapitre 1, verset 2. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. » Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17, nous avons une affirmation de cette préexistence du Fils, mais pas une préexistence passive, une préexistence active auprès de Dieu et avec Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Soutenant toute chose, dit aussi l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, que nous venons de lire. Bien sûr, l'introduction de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je vous relis précisément le texte. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà la figure excellente du Fils de Dieu, la figure éternelle, active dans la création et la révélation du Dieu éternel, concepteur et partie prenante de l'existence de toute chose. Voilà le Fils dans son origine. Mais ce passage que nous venons de lire nous dit que bien que Fils, il a appris l'obéissance. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et pour arriver à ses souffrances, il a pris un chemin d'abaissement dès le commencement, dès l'instant où Dieu, le Père, le lui a demandé. Le Père et le Fils se sont pleinement accordés pour que intervienne une œuvre nouvelle, pour qu'intervienne la venue dans la chair. Et là, nous avons un texte de référence qui est absolument lumineux. C'est l'Épître aux Éphésiens, Philippiens, pardon, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je répète, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Affronter la mort, et pour cela, devenir homme, vrai homme, paraître dans la chair. Parce que Dieu ne meurt pas, bien sûr, Dieu est éternel. C'est son chemin d'obéissance, ce qui implique le renoncement à sa condition divine. Il s'est dépouillé. Jésus parut comme un vrai homme. Revient souvent dans les discussions, les controverses, de savoir si Jésus était Dieu. Mais récemment, un homme m'a posé la question inverse. Jésus était-il un vrai homme? C'est une question tout aussi fondamentale. qui vient d'ailleurs avant celle « Jésus était-il Dieu ?» Puisque si Jésus était de condition divine et préexistait, quand il est paru parmi les hommes, était-il vraiment un homme ? N'était-il pas un une apparition, un super homme, un ange qui se manifestait parmi les hommes, qui avait l'apparence d'un homme, mais qui n'était pas vraiment un homme. Et ça a vraiment produit l'incompréhension qui se fait jour dans les pages de l'Évangile et qui demeure jusqu'à ce jour. Jésus était-il Dieu ? L'accusation des Juifs, toi qui es un homme, tu te fais Dieu, était-elle fondée ? C'est dans Jean chapitre 10, verset 33. Et il concluait cela des paroles de Jésus, « Je suis le Fils de Dieu ». Mais Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Comment l'aurait-il pu ? Alors que tout son parcours, sa vocation acceptée jusque dans son extrémité, avait été d'être fait homme. Oui, la parole a été faite chair. Oui, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Jésus était vraiment un homme. Homme saint et juste, homme parfait, et parfait dans son obéissance, qui apparut pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voici mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir, dit le Seigneur, dans le prophète Ésaïe, donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà le but de l'apparition du Fils de Dieu, clairement. L'apparition en chair, en tant qu'homme du Fils de Dieu, a comme raison la réalité du péché et de la mort. C'est pour se confronter à cette réalité du péché et de la mort que le Fils de Dieu apparut dans la chair. Chapitre 2, versets 14 à 18 de la même épître aux Hébreux. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le fait que Jésus paraisse dans la chair avait comme but la confrontation avec la mort. La mort de l'homme due à son péché. Et la mort implique, a impliqué, parce que le péché La souffrance est inhérente au péché. La mort du Fils de Dieu, le fait qu'il prenne sur lui le péché a impliqué une souffrance infinie que le Fils a acceptée. Il a accepté cette obéissance par les choses qu'il a souffertes. Chapitre 2, toujours, de l'Épître aux Hébreux, versets 9 à 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. La mort de Christ a été une infinie souffrance. Il y a eu les souffrances de la croix, la flagellation, les clous, le fait d'être pendu au bois pendant toutes ces heures, mais jusqu'à la mort, qui est la séparation d'avec Dieu, qui est cette souffrance infinie de la séparation. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Élevé à la perfection par les souffrances. Loin de Dieu, l'être humain souffre sous la domination du diable. La souffrance est inhérente au péché et dans la chair, le Fils de Dieu a souffert. Homme de douleur et habitué à la souffrance, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Donc, vous pouvez voir, contempler à nouveau la figure du Fils de Dieu qui a souffert la mort pour tous. Jésus a offert son humanité à Dieu, cette humanité pure et sainte qu'il a conservée malgré la tentation, malgré l'opposition, malgré toute la contradiction qui l'entourait, il est resté dans la pureté, dans la sainteté, dans la perfection, la justice de Dieu. Et là, il a pu offrir cette humanité pour devenir le sacrifice pour le péché. La mort de Christ est venue sanctionner le péché de l'homme parce que Jésus s'était rendu totalement solidaire de ses frères. Et de ce fait qu'il ait offert sa vie parfaite en sacrifice pour le péché a été ôté de devant la face de Dieu. Et cela dégage l'homme de la mort, de la condamnation et de la mort. Et là, à ce moment-là, lorsque le Fils est allé au bout de son obéissance, lorsqu'il a accepté d'être privé de la présence de son Père, lorsqu'il est passé par cette souffrance de la mort, à ce moment-là, Dieu a pu révéler toute sa gloire et déclarer la sainteté et la divinité de son Fils. C'est là que, dans le texte que je vous ai lu au départ, le Seigneur rappelle, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Cette déclaration vient du psaume 2, verset 7. C'est dans ce psaume que Dieu déjà à l'avance déclare « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et elle est reprise ici comme déjà au chapitre 1, verset 5 de la même épître. « Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, a trait à la résurrection de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui en fait la démonstration devant les Juifs à Antioche de Pisidie, dans les Actes au chapitre 13, versets 30 à 37, je vous lis. Mais Dieu, l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui la résurrection du Seigneur qui lui permet d'échapper à la corruption. Pierre l'avait dit initialement dans son premier discours de la Pentecôte, chapitre 2, versets 22 à 28. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez lui-même, vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. » Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Pas de corruption pour le saint et le juste, le prince de la vie, comme Pierre encore dans un autre discours, juste ensuite, chapitre 3, verset 14-15. « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Pas de corruption pour le prince de la vie, pas de corruption pour le saint et le juste. Mais la résurrection. La gloire du Père a ressuscité Christ pour l'établir dans sa puissance divine. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1, verset 4. Déclare l'apôtre Paul. Si vous cherchez la divinité de Christ, elle est là, dans la résurrection de ce corps qui a porté le péché et subi la mort à votre place. Dieu a frappé l'homme pécheur par la mort, car Christ portait nos péchés lorsqu'il était sur le bois. Et il a honoré l'homme juste par la résurrection et l'élévation dans la sphère divine. La puissance de Dieu est intervenue et a donné au Fils bien-aimé le chemin inverse à son humiliation. L'épître aux Philippiens que je vous ai lu tout à l'heure, il a été suprêmement élevé, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est paru assis à la droite de la majesté divine, dit aussi un autre texte, et il a reçu ce titre de Seigneur, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute cette vérité exposée par les apôtres sur la base de la résurrection historique de Jésus. Actes toujours, chapitre 2, versets 29 à 36, la suite du passage que je vous lisais. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus, ressuscité d'entre les morts, recouvrant toute sa nature divine, établi dans les cieux à la droite du Père. Avec une nuance, et elle est de taille, c'est que dans la résurrection, Jésus ne quitte pas son humanité. Notre humanité. Il est devenu homme. Il le reste, recouvert à jamais de la gloire divine, établi comme créature sainte, Seigneur de l'univers. Et s'il n'y a pas de corruption pour le ressusciter, il n'y en aura pas non plus pour ceux qui seront rendus à la vie, sortis de la mort, par l'effacement de leurs offenses et la résurrection du Fils de Dieu. Jésus ramène avec lui les enfants de Dieu à la condition divine, à la droite de la majesté divine dans les cieux. Il nous assoit avec lui dans les lieux célestes. D'où la conclusion du passage, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et l'Épître aux Hébreux, justement, dans les passages que je vous ai lus, parle de la position actuelle du Fils de Dieu qui intercède pour nous, qui est souverain sacrificateur et qui est toujours auprès du Père afin d'intercéder en notre faveur, en vertu de son sacrifice. Mais, donc, par son obéissance, par l'efficacité de sa souffrance, de sa mort à la croix. Il nous délivre de la condamnation et il est devenu, par sa résurrection, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. L'obéissance du Fils de Dieu nous conduit à la vie éternelle, au salut éternel. Tous ceux qui lui obéissent. Et donc là, maintenant, il est question de notre obéissance. Après son obéissance, il est question de notre obéissance. Et nous l'examinerons dans un prochain message. Mais je relève de suite qu'il s'agit d'obéir au Fils de Dieu qui a donné sa vie pour nous, Jésus. et qui vous demande essentiellement de venir à lui, de vous confier en lui. Je citerai seulement cet exemple, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Les sacrificateurs, ceux qui étaient les hommes de la loi, ont laissé la confiance qu'ils mettaient dans leurs œuvres, dans leur propre justice, pour se confier en la justice de Dieu acquise pour nous à la croix par la mort de Christ. C'est cela essentiellement notre obéissance, l'obéissance de la foi dont Paul parle dans son épître aux Romains au chapitre 1 et dans son introduction et sa conclusion de l'épître. Il parle de ce ministère qu'il avait, de cette responsabilité d'amener les païens à l'obéissance de la foi. C'est de cette obéissance dont il est question, sur laquelle nous pourrons revenir plus en détail, mais vraiment dès maintenant que le Saint-Esprit mette une grande conviction dans vos cœurs. Jésus vous aime et a souffert pour vous, et il est l'auteur de votre salut, d'un salut éternel, par sa mort et par la gloire du Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Amen.